Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le 1er mai 2021. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h en français sur Radio SBS. Au cours du programme, aujourd'hui nous partirons donc à direction l'année 1990, c'est le début de la fin d'un pays, l'Union, l'URSS. Nous parlerons également des visas, si votre visa expire en Australie, que faire? Et nous parlerons d'une icône de l'art français en Australie, Mirka Mora. Mais pour l'heure, on passe au journal. Et pour commencer, les grands titres de l'actualité, durcissement de la politique des voyages en Australie, si c'était possible. L'Australie, vous allez le voir, augmente le prix des amendes si vous voyagez sans en avoir le droit. Et la situation de plus en plus inquiétante également en Inde, c'est toujours sur le Covid-19. En titre, le gouvernement fédéral en Australie a pour la première fois depuis le début de la pandémie institué des amendes et une peine de 5 ans de prison possible pour quiconque tente d'entrer en Australie depuis l'Inde. À partir de lundi, quiconque donc ne se conformera pas à la loi sur la biosécurité pourrait également être condamné à une amende de $666,000. 66 600 $ et une peine d'emprisonnement de 2 ans. Le Premier ministre Scott Morrison, dans une déclaration, a exprimé sa solidarité avec la communauté indienne en Australie et à l'étranger. Cela vient après que 2 voyageurs de cricket, donc 2 joueurs de cricket australiens, aient pu rentrer chez eux malgré l'interdiction de voyager en transitant via Doha. Plus de 9000 Australiens en Inde sont enregistrés comme souhaitant rentrer, dont 650 personnes répertoriées comme vulnérables. Le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que cette décision donc d'augmenter les amendes était temporaire et susceptible de changer le 15 mai lorsque l'interdiction des vols entre l'Australie et l'Inde devait être levée. On l'écoute.
It's about what our quarantine system can handle with the number of cases that are coming from India. We have taken drastic action to keep Australians safe. And what we face in India is a very serious situation where the medical advice provided to the federal government has been to put in place the we're working with into India with medical devices, with ventilators.
Voilà, donc Josh Frydenberg, Air New Zealand, fait état d'une brèche potentielle dans la bulle Trans-Tasman, un avion transportant une femme des îles Cook qui n'avait pas été mise en quarantaine pendant 14 jours eh bien, avant d'entrer en Nouvelle-Zélande, a atterri à Perth depuis Auckland. La passagère était à bord donc, du vol NZ-175 et n'était pas éligible donc, pour un voyage sans quarantaine vers l'Australie. Les autorités sanitaires de l'Australie occidentale disent que la femme est actuellement en isolement dans un hôtel de quarantaine donc à Perth et devra passer un test donc contre le coronavirus. Dans le Queensland et dès aujourd'hui, toute personne entrant dans l'État en provenance d'autres États australiens sera mise en quarantaine donc de 14 jours si cette personne a visité des sites dits de zone rouge ou des sites d'exposition. Les conseils de Queensland F indiquent que eh bien, si les voyageurs ne sont pas rendus dans des sites, donc des lieux d'exposition, ils doivent tout de même surveiller la liste puisque cette liste des zones rouges est bien évolue tous les jours et ils devront vérifier cette liste pendant 14 jours. La liste sera également continuellement mise à jour et comprend actuellement plusieurs sites d'Australie occidentale, du Victoria et certaines de Nouvelle-Zélande. Les élections maintenant en Tasmanie. La campagne du Parti libéral s'est concentrée sur la gestion du Covid-19, tandis que l'opposition s'est concentrée sur le système de santé en difficulté dans l'État et la pénurie des logements abordables. Belay Tesfadet est originaire d'Érythrée et c'est un leader communautaire donc de la communauté de la langue tigria. Cette personne est à Hobart. Il dit bien que voter pour la première fois suscite beaucoup d'émotions pour lui.
The Eritrean community in Hobart They came from different corners, from Egypt, Kenya, Ethiopia, Sudan. Most of them, they stayed very long time in the refugee camp. In the refugee camps, they were not having chance for voting because they were refugees. But now, this is a new experience, so it's very important.
Voilà donc pour les élections dans Tasmanie, à Hobart. En France, une semaine après l'effroi de l'attaque contre le commissariat de Rambouillet en région parisienne, attaque qui avait coûté la vie à une fonctionnaire de police, eh bien, l'État français lui a rendu hommage. On écoute le Premier ministre Jean Castex.
Votre collègue a été assassinée parce qu'elle servait son pays, parce qu'elle était au service de la France. Ce fanatisme nous a déclaré la guerre, mais c'est une guerre de lâches. Stéphanie n'était pas en faction, Stéphanie n'était pas en uniforme. Rendre hommage à Stéphanie, comme à toutes les victimes de terroristes fanatiques, c'est continuer sans cesse à agir, à renforcer nos outils de prévention et de surveillance, à commencer par celle des réseaux numériques, à opposer au terrorisme une volonté inflexible et des moyens.
Voilà donc le Premier ministre Jean Castex. 13h06, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. On va parler du Covid maintenant, mais le Covid dans le monde. Le Brésil fait appel aux pays disposant de doses supplémentaires de vaccins pour le pays leur demande de partager leur stock. L'appel intervient après que le Brésil donc, a dépassé les 400 000 morts, avril étant le mois le plus meurtrier pour le pays. Les cas et les décès ont récemment diminué, mais les autorités restent préoccupées par la situation. Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a déclaré que le pays devrait agir et agir rapidement. On l'écoute.
En contexte pandémique, la défense...
During a pandemic, a fair and equitable access to COVID-19 vaccines needs to be in accordance with the epidemic situation. This is why we are calling again on those who have vaccine surplus to share it with Brazil so we can move forward and broaden our vaccination campaign and contain the pandemic at this critical time to avoid new variants.
De novas linhagens e variantes do vírus.
Voilà, donc pour le Brésil, direction l'Inde maintenant, des nouveaux cas de coronavirus continuent d'apparaître dans le pays, incitant l'armée à ouvrir ses hôpitaux dans le but de contrôler la crise sanitaire. Les derniers chiffres montrent près de 3500 nouveaux décès et plus de 380 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Les gens se sont tournés vers les médias sociaux, les applications de messagerie avec des appels désespérés pour des médicaments, de l'oxygène, des chambres dans les unités de soins intensifs. On écoute cette habitante de Delhi, Renu Singh, dit qu'elle a du mal à trouver de l'oxygène pour sa famille.
All these are fake phone numbers circulating in social media for securing oxygen. We have been trying these since yesterday, but have not been able to talk to anybody. We have also inquired from the gas agencies around here, waiting for hours, but still have not been able to get oxygen anywhere.
Donc pour l'Inde, le gouvernement australien a envoyé des fournitures d'urgence, mais le ministre des Affaires étrangères n'a pas encore répondu à SBS qui lui demande de confirmer si des Australiens ont été admis à l'hôpital avec des raisons des causes de Covid-19 dans le pays, donc en Inde. De leur côté, les Nations Unies se disent prêtes à aider le pays. Le porte-parole de l'ONU, Farc Ak, a déclaré que l'UNICEF avait envoyé 3000 concentrateurs d'oxygène, des tests, des kits médicaux et d'autres équipements en Inde.
The agency is helping to procure and install oxygen plants for hospitals in the northeast and in Maharashtra, as well as the installation of thermal scanners at ports of entry countrywide. UNICEF has also been helping the government to ensure vulnerable children can continue functioning, as well as to help more than 12 million children in 17 states continue learning from home.
Voilà donc pour l'ONU, le point sur la situation en Inde et pourquoi est-il si dur d'avoir des vrais chiffres officiels, l'élément de réponse avec Sébastien Farcy pour RFI.
En temps normal, seulement 18% des décès sont rapportés en Inde et la cause de la mort enregistrée. Cela fait déjà 4 décès du Covid sur 5 qui passent sous les radars à cause de ce problème administratif. À cela, il faut rajouter le mauvais dépistage. Selon les études sérologiques récentes, seulement 3% des Indiens infectés ont été officiellement déclarés positifs contre 25% en Europe. Or, si une personne n'est pas testée positive, elle ne peut pas être officiellement morte du Covid. Enfin, il y a une volonté politique de rapporter le moins possible de cas et de faire passer ces décès pour des morts naturelles. Heman Chevade, chercheur et docteur de médecine communautaire, explique pourquoi la comparaison avec la mortalité européenne est trompeuse.
Nous ne comparons jamais les pays selon les décès qu'ils rapportent. En France, le système d'enregistrement des décès est quasiment parfait et s'il y a des erreurs, elles sont corrigées. En Inde, ce système est très mauvais et on ne corrige jamais. Le Gujarat n'a par exemple enregistré que 20 morts dans une journée, alors que ce même jour, 300 crémations ont été réalisées en suivant les protocoles Covid. Imaginez l'ampleur de la sous-déclaration des morts.
Selon lui, la mortalité par habitant est au moins aussi élevée en Inde qu'au Brésil.
C'était Sébastien Farcy pour RFI. L'Organisation mondiale de la santé a demandé à ce que le vaccin Moderna passe dans la catégorie des utilisations d'urgence. C'est le 5e vaccin à recevoir le statut censé accélérer l'approbation de nouveaux vaccins donc dans les pays, dans un communiqué. L'OMS a déclaré qu'il vise à rendre les médicaments et les vaccins disponibles aussi rapidement que possible pour contenir le virus. Plus tôt cette semaine, Moderna a annoncé une augmentation de sa capacité de production jusqu'à 3 milliards de doses en 2022. 13h11, Israël a déclaré un jour de deuil national après la mort de 45 personnes dans une bousculade lors d'une fête religieuse. Le festival qui avait lieu sur les pentes du mont Meron donc en Israël, il semblerait que des enfants soient également parmi les victimes. La bousculade a éclaté lorsque des dizaines de milliers de fidèles ont tenté de pénétrer dans un passage étroit en forme de tunnel pendant l'événement. Alors que les premières funérailles ont lieu, on écoute cet ambulancier qui faisait partie des services de réponse d'urgence.
Je suis dans les secours de Magen David Adom depuis 20 ans et c'est l'un des événements les plus durs et les plus tragiques auxquels j'ai dû faire face. C'est une tragédie de voir tant de gens inconscients avec des blessures graves. Et puis, vous devez comprendre que quelques minutes avant, ils faisaient la fête, ils dansaient, ils chantaient. Toutes ces choses tournent en boucle dans ma tête. C'est dur parce que vous voyez les kippas, les chaussures, les verres par terre et puis les hurlements. Tous ces gens inconscients qu'on sortait des lieux, ils en sortaient sans arrêt. Il y a eu énormément de victimes. Nous étions préparés, on avait beaucoup de matériel et de personnel sur place, mais quand on a compris l'ampleur de l'événement, on a appelé des renforts de toute la région, des hélicoptères notamment. On a fait au mieux, mais au final, c'est une tragédie immense.
Oui, 13h13, un mot de sport. L'instance dirigeante du football, la FIFA, s'est jointe à un boycott en ligne donc ce week-end, appelant à l'action des entreprises de médias sociaux pour éradiquer les abus racistes sur leur plateforme. De nombreux footballeurs de haut niveau ont été victimes d'abus raciaux ces derniers mois de la part de comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Le prince William, l'UEFA, la Fédération anglaise de football, la Premier League, les clubs anglais de cricket et de rugby et la British Lawn Tennis Association, qui organise d'ailleurs Wimbledon, eh bien, se joindront également au boycott. On écoute le footballeur professionnel anglais Troy Deeney. Il a déclaré sur la BBC que le boycott est déjà un grand pas.
It could give people a perspective of what life could be like without a huge amount of sporting stars on there.
Voilà, 13h14, coup d'œil météo pour cet après-midi à travers le pays. À Perth, il fera 22 degrés, Adélaïde 28, Melbourne 24, Hobart 23, Canberra 22, Sydney 24, Brisbane 24 également, Cairns 28 et un grand soleil et 34 degrés pour Darwin. Retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. On l'a vu dans ce journal, durcissement de la politique des voyages, surtout de retour depuis l'Inde en Australie, au moins jusqu'au 15 mai. Et on l'a vu également, la situation de plus en plus inquiétante en Inde, avec des cas qui ont du mal à être détectés. 13h15, courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
On pourrait reconnaître sa voix parmi des millions. C'était donc bien entendu Vanessa Paradis et cette chanson Il y a qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mai. 13h19, courte pause et direction l'année 1990 et la fin de l'URSS. Tout de suite après ça.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Rubrique rétrospective, nous sommes le 1er mai et cette fois-ci direction l'année 1990. Le 1er mai donc 1990, Mikhaïl Gorbatchev, alors à la tête de l'URSS, l'Union soviétique, était hué, conspué par des milliers de manifestants alors qu'il se trouvait à la tribune de la Place Rouge à Moscou. Mikhaïl Gorbatchev, l'homme qui a voulu réformer l'Union soviétique, rattrapé par le vent de liberté et de démocratie qu'il avait lui-même initié. Un an plus tard, en 1991, l'URSS disparaissait. Retour sur ce 1er mai 1990 donc, avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
1er mai, du désaveu et de l'affront pour Mikhaïl Gorbatchev qui a dû quitter la tribune sous les cris et les sifflets hostiles des manifestants.
Bonsoir, avènement d'un symbole dans les pays de l'Est jusqu'à présent. Le 1er mai a toujours été la fête officielle, la fête du parti unique et les ouvriers se taisaient. Aujourd'hui, les ouvriers parlent, ils protestent même et n'hésitent pas à conspuer le tout-puissant maître du Kremlin.
À Moscou, ce matin, le défilé officiel du 1er mai n'aura duré qu'une heure et demie. Le temps pour Mikhaïl Gorbatchev de voir défiler devant lui les mouvements réformateurs ou ultra-conservateurs. Le temps pour le numéro 1 soviétique de se faire siffler et huer par des manifestants hostiles au régime. Un affront que Gorbatchev n'a pas supporté. Il a quitté la tribune.
Siffler et huer par une foule de quelques 30 000 personnes, des mouvements informels de l'opposition progressiste. Leur manifestation a été autorisée après le défilé officiel des syndicats. En début de matinée, avec 50 000 personnes, le premier défilé officiel, celui-là, organisé pour la première fois par les syndicats, n'avait pas épargné non plus Mikhaïl Gorbatchev. Mise en garde contre sa politique de réformes économiques, contre les menaces de chômage et les magasins de plus en plus vides.
Alors, vous êtes le dernier président de l'URSS, prix Nobel de la paix en 1990 pour votre contribution essentielle à la fin de la guerre froide. Et c'est vraiment extraordinaire, et je vous en remercie encore, de vous avoir avec nous ce soir, Mikhaïl Gorbatchev. Alors, vous aviez une allure moderne, et votre épouse, notre chère Raïssa, était une véritable first lady. Est-ce que c'était votre nature profonde ou c'était une stratégie politique ?
Absolument, c'est naturel.
Non, c'était tout à fait naturel. Ça me venait tout seul.
Pourtant, vous aviez gravi tous les échelons du parti communiste soviétique avec des gens qui n'étaient pas drôles du tout.
Vous savez, il y a beaucoup de veselых людей.
Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui étaient très sympathiques.
Ah bon ?
Я бы один ничего не сделал.
Tout seul, je n'aurais pu rien faire.
Mikhaïl Gorbatchev, quand vous arrivez au pouvoir, vous arrivez avec trois nouveaux concepts, la perestroïka, la glasnost et la nouvelle pensée diplomatique. Alors, nouvelle pensée diplomatique, c'est ralentir la course aux armements qui était intenable pour un pays comme l'URSS qui allait assez mal sur le plan économique. La glasnost, c'est la fin du goulag, la liberté de parole. Et la perestroïka, c'est garder l'idéal socialiste, mais supprimer les déviations du stalinisme. Vous dites dans votre livre, on peut dire que le communisme total a subi une défaite totale.
Au
départ, les idées communistes, j'y croyais. En terminale, j'ai adhéré au Parti communiste quand j'étais en terminale. Et je suis resté membre du parti pendant de longues années. Et c'est quand j'étais au parti, quand j'ai commencé à faire de la politique, au fur et à mesure, plus j'accumulais d'informations, plus je comprenais que ce système ne fonctionne pas. Le modèle est mauvais. Cela dit, j'avais quand même des illusions. Je pensais que j'arriverais à améliorer le système. Et j'ai passé mes deux premières années au pouvoir à y croire.
Quand Gorbatchev succède le 11 mars 1985 au dernier des morts-vivants du Kremlin, Konstantin Tchernenko, le KGB a fait un diagnostic douloureux, l'Union soviétique n'a plus les moyens de tenir son rang de grande puissance. Il met aussitôt ses paroles en acte, novembre 1985, premier sommet Reagan-Gorbatchev à Genève, un an plus tard, deuxième sommet à Reykjavik en Islande, Gorbatchev propose tout simplement de désarmer la totalité du nucléaire européen. À l'intérieur de l'Union, Gorbatchev lance la glasnost, la transparence, un premier pas vers les libertés de la presse et d'opinion. Et il n'a pas peur des bains de foule, même lorsque ce que la foule lui dit n'est pas agréable à entendre. Le dissident le plus célèbre, Andrei Sakharov, rentre de son exil forcé de Gorki, et l'Occident découvre avec plaisir qu'on peut faire confiance à Gorbatchev. 7 décembre 1987, signature à Washington du premier traité de désarmement de l'histoire, Gorbatchev devient l'homme de l'Ouest, plus populaire à l'étranger que dans son propre pays. Avec la chute du mur de Berlin, deux ans plus tard, Gorbatchev va au bout de la logique qu'il a initiée. Il laisse disparaître les régimes communistes d'Europe de l'Est. 1987, 88, 89, une réforme constitutionnelle et des élections presque libres ont renouvelé l'essentiel des instances dirigeantes. Les derniers Brejneviens sont partis. Gorbatchev espère toujours pouvoir réformer et l'économie et le Parti communiste, malgré les résistances conservatrices, la crise économique et le ras-le-bol d'un peuple qui, un 1er mai, osera siffler sur la place rouge le dernier tsar communiste. 11 mars 90, la Lituanie restaure son indépendance, c'est le premier défi à l'Empire, le défi balte. Gorbatchev répond par le blocus économique, sans succès. 12 juin 91, Boris Yeltsin devient le premier président de Russie élu au suffrage universel direct, c'est le deuxième défi à l'Empire. 8 décembre 91, l'Union soviétique est morte, déclare la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, qui crée un marché commun slave, c'est le troisième défi.
Vous êtes avec Radio SBS en français. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était Gaëtan Roussel, bien entendu. Je me jette à ton cou, qui fait partie, encore une fois, de notre sélection pour le mois de mai. Sélection musicale que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos playlists Spotify. Il est 13h32, courte pause, et on va parler eh bien, des conséquences de l'expiration des visas, du type visa backpacker ou 457. Donc les conséquences de l'expiration de ces visas si vous êtes toujours en Australie. Tout de suite après ça.
Vous êtes avec SBS French.
Que se passe-t-il si quelqu'un se trouve en Australie et que son visa a expiré? Les étrangers en situation irrégulière risquent d'être détenus et expulsés du pays. Mais que faire si vous vous retrouvez avec un visa expiré en Australie? Un charpentier italien de 25 ans, que nous appelons Giacomo dans cette rubrique, est arrivé en Australie avec un visa vacances-travail en 2018, puis a obtenu un visa étudiant. Plus tard, il a trouvé un employeur qui l'a parrainé pour un visa temporaire du programme mis en place pour adresser la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et lorsqu'il a fait une demande de visa de type 482, il a reçu un visa transitoire de type A, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.
I applied for a sponsorship visa in 2019 November, but then I entered just in a bridging visa for the sponsorship. And in May, when the COVID arrived, I lost my job, so I didn't have any more sponsorship.
Le ministère de l'Intérieur a envoyé à Giacomo un avis indiquant qu'il avait 35 jours pour retirer sa demande du visa de type 482 et introduire une demande pour une autre catégorie de visa ou quitter le pays. Ensuite, avec l'aide d'un agent de migration, il a demandé un visa de visiteur, mais celui-ci lui a été refusé car cette demande a été introduite plus de 28 jours après l'expiration de son visa étudiant, qui était le dernier visa substantiel qu'il avait eu. Il a fait appel de cette décision. Selon Emmanuel Akanini, un agent de migration chez Migration World, la plupart des gens se trouvent en situation régulière en Australie. Cependant, elle dit qu'il lui arrive de recevoir des clients qui ont laissé leur visa expirer.
Usually most of the people who let their visa expire are mainly visitor visa holders, but also students. Some forget about the expiry date, some don't care, some don't clearly understand the system, while others do it deliberately to continue to stay in the territory and maybe work without permission. In my experience, there are also some with working holiday visa who don't quite understand when the second working holiday visa starts and consequently miss the visa end date.
Selon Mme Canini, il existe des croyances erronées répandues sur ce que signifie être en situation de séjour illégal.
The first is that being illegal is not a characteristic of asylum seekers, for example, especially those who arrive by boat. And the other widespread myth is that upon expiry of the visa, you have 28 days to leave Australia. It's not true. When the visa expires, it expires.
Les lois relatives aux visas sont décrites dans la loi de 1958 sur l'immigration et le règlement sur l'immigration de 1994.
By law, everyone must have a visa to enter and stay in Australia. All temporary visas have an expiry date. And during your stay, you must make sure to renew it before it expires or apply for a different visa if you satisfy the requirements. If this doesn't happen, upon expiry of the visa, you become legal. The greatest risk of being illegal is that you may end up in detention and then removed from the country.
Selon le ministère de l'Intérieur, au 31 janvier 2021, 156 étrangers en situation irrégulière étaient en détention en attente d'expulsion du pays. Cependant, on estime qu'au total, des dizaines de milliers sont en situation irrégulière. L'agent de migration et avocat accrédité Alessia Comandini des services de migration Comandini explique qu'une personne qui constate que son visa a expiré peut organiser son départ du pays avec le ministère de l'Intérieur en demandant un visa transitoire de catégorie E qui lui permet d'être en situation régulière avant son départ.
We always advise our clients when they realize that their visa is expired not to simply buy the ticket and go to the airport. But we always advise them to request a bridging visa E before leaving the country. With this bridging visa E, they will be granted a period of time to legally leave the country, and they will avoid any detrimental consequences like being detained at the airport.
Une personne qui a dépassé la durée de son visa de moins de 28 jours, elle a plus d'options.
A person may be able to apply to remain in Australia because of their relationship with another Australian citizen or permanent resident, which is obviously the partner visa applications. Or if a person has held a student visa and within the 28 days from the expiration date of their student visa, they apply for another student visa, they technically have a grace period, which will allow them to apply again for another student visa.
Les étudiants étrangers ne peuvent utiliser cette période de grâce qu'une seule fois dans leur vie. Et si une personne a dépassé la durée de son visa pendant plus de 28 jours sans régulariser sa situation, ses options deviennent très limitées. Dans certains cas, on peut être frappé d'une période d'exclusion de 3 ans pendant laquelle on n'a droit à aucun autre visa.
Si vous avez stayed and remained in Australia legally for more than 28 days, any future application for an Australian visa will be subject to an exclusion period. That means that you will be unable to be granted a visa to travel to or to stay in Australia for a minimum of 3 years. This period will apply even if you have left Australia voluntarily.
La période d'exclusion de 3 ans commence le jour du départ d'Australie. Elle s'applique à ceux qui n'ont pas régularisé leur séjour dans les 28 jours suivant l'expiration de leur visa et ont quitté l'Australie en situation de séjour irrégulier et détenteurs d'un visa transitoire de catégorie C, D ou E. Alors, comment éviter de se retrouver dans cette situation ? Bien, Mme Canini explique que la meilleure chose à faire est de prêter attention à la date d'expiration de son visa au moment de son obtention.
It is not actually difficult to avoid being without a visa. Obviously, there may be special circumstances such as an accident or a sudden event, but essentially you must be aware of the expiry date of your visa, first of all, and this is written on all the letters of approval of the visas, or you can check it on the Department of Home Affairs website by entering your data into the system. And in case you're not very familiar with the English language or with the system, you can still ask an immigration expert.
Dans certains cas, des personnes dont le visa a expiré peuvent introduire une demande de visa de protection ou demande d'asile. Ben Lumsdaine, qui est l'avocat principal superviseur au service conseil et gestion des dossiers pour les réfugiés, Refugee Advice and Casework Service, ou RACS en abrégé, explique qu'une partie du travail de son organisation consiste à aider les personnes qui craignent d'être persécutées dans leur pays d'origine.
The Refugee Advice and Casework Service works with people seeking asylum in Australia. We'll help them try to apply for protection visa if they've got a fear of being persecuted in their home country. So sometimes those people come to us while they have student visas. They might come to us while they have a visitor visa, but it could be any type of visa really. And if we think they should apply for a protection visa, we could help them with that. And if they're waiting for that protection visa application, if they're not meeting the conditions of their visa, so for student visas where it's like attending classes, then that visa might be cancelled and we'd assist them in that scenario.
Le RACS a récemment aidé certains étudiants vénézuéliens à introduire une demande de visa de protection en Australie. Une aide est disponible pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur sbs.com.au/settlementguide.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Et c'était la saison des pluies de Rameau et Loïc Fleury qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mai. 13h45, on va parler maintenant de Mirka Mora. On l'adorait, nous, ici au programme en français. Eh bien, il y a une autre personne qui l'adorait, c'était Serge Thomann. Il nous en parle si bien.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile. Gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Alors aujourd'hui, on est avec Serge Thomann, qu'on connaît bien dans le programme en français. On va parler également d'un personnage, d'une dame qu'on aimait beaucoup, Mirka Mora. Serge, déjà bonjour. Et
on l'aime toujours.
On l'aime toujours, mais Mirka est quand même, était et est toujours très chère à votre cœur.
Absolument, mais c'est un peu difficile de décrire. Et bonjour Christophe, et bonjour à tous, mais c'est un peu difficile à décrire parce qu'elle était beaucoup de choses pour moi, mais le meilleur mot peut-être c'était une mère spirituelle. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle, et puis jusqu'à sa mort, je l'ai vue la veille de son décès. Ben, elle s'est toujours souvenue de moi parce que la première fois que je l'ai rencontrée, vu qu'elle était quand même un peu plus âgée que moi, et comme on parlait français, je l'ai vouvoyée. Et elle m'a demandé que je la tutoie. Et j'ai dit que, par signe de respect, je ne me vois pas la tutoyer. Et donc, j'ai dit, je préfère la vouvoyer. Et donc, elle m'a dit, si vous me vouvoyez, moi aussi, je vous vouvoie. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle m'a toujours vouvoyé. On s'est toujours vouvoyé. Ouais, donc, je l'ai rencontré en 95. Et comme dit, on s'est toujours vouvoyé jusqu'à la fin. Donc, je pense que même quand elle était, parce que bon, elle avait Alzheimer. Donc, mais jusqu'à la fin, elle devait me reconnaître, vu qu'elle me parlait en français, et elle me vouvoyait. Donc, ouais, devait savoir qui j'étais. Quoi.
C'est dur de parler de Mirkia au passé parce que en fait, elle est tellement encore présente aujourd'hui dans plein d'endroits à Melbourne, notamment à Saint-Kilda, qui est un peu votre fief. C'est vrai qu'elle est présente un peu partout, en fait, globalement, Mirkia encore.
Ben, Mirkia, elle a fait un truc qui était tout nouveau. Elle a rendu l'art accessible à tout le monde. Elle ne voulait pas que elle ne vendait pas des peintures à des milliers de dollars. Elle faisait beaucoup de commissions. Donc où elle était payée comme Flinders Street Station et le Saint-Guy de la Pierre et d'autres trucs et mais également elle marquait, elle était un peu comme c'est peut-être pas très galant comme expression, mais elle était un peu comme un chien qui marque son territoire. Donc elle peignait partout, elle avait horreur du vide, donc même dans sa maison les vitres étaient peintes, etc. Donc il fallait que tout soit décoré, et donc elle laissait sa marque un peu partout où elle mangeait, où elle achetait ses livres, et donc elle a vécu à Saint-Kilda pendant de nombreuses années. Donc Tollarno, pareil, quand c'est devenu un restaurant, elle a peint les murs, etc. Donc elle a peint tout, les lumières, comme tout avait été décoré. Et puis ensuite, donc tous les endroits où elle mangeait, Cicciolina, le Dog's Bar, à l'époque Cosmos, la librairie. Donc elle laissait ses marques. Et c'était bien parce que bon, toutes ces peintures sont des peintures gays, même si le personnage est un peu triste, parce que moi je pense que pratiquement toutes ces peintures c'est un autoportrait. Et oui, donc il y a un peu de tristesse.
Il y a cette représentation de la maladie beaucoup aussi avec ce qu'elle a pu vivre.
C'est ça, ce qu'elle a vécu pendant la guerre, donc c'est un peu ce qui est. Donc c'est cette nostalgie, cette tristesse. Et puis bon, elle a quand même échappé à Auschwitz, elle a quand même eu beaucoup de chance, heureusement pour nous tous, heureusement pour l'humanité, parce que je pense qu'elle a beaucoup contribué à la beauté et à la vie culturelle de Melbourne et la vie non seulement culturel, mais également la vie au niveau de... C'est quand même son restaurant qui a eu le premier, le Balzac, qui a eu la première licence d'alcool. Donc elle a été, avec son mari, assez une précurseuse de la vie, de ce qu'on a maintenant. Quoi.
On en a parlé beaucoup avec son fils, d'ailleurs. Il y a une très belle rétrospective de sa vie dans un musée qui est tout petit, hein, le musée juif.
Jewish Museum, moi.
Le Jewish Museum, voilà. mais une très 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 belle exposition qui symbolise bien qui était Mirkia, en fait.
Absolument. Donc il y a eu, quand Mirkia est décédé, le Heidi Museum à Bulin, ils ont récupéré pas mal de choses à elle dans l'espoir d'avoir un musée Mirkia un de ces jours. On ne sait pas quand, mais bon, c'est l'idée, c'est d'avoir un musée et même éventuellement d'avoir le musée à Heidi. Le Jewish Museum a voulu faire une rétrospective sur les œuvres de Mirkia et sur la vie de Mirkia. Et donc, le Heidi a prêté beaucoup de ses objets, de ses peintures, de ses photos. Le fils a prêté beaucoup de choses, ou la Mirkia Mora Estate. Et puis, ils ont réussi également à récupérer des œuvres qui appartiennent à des personnes privées, comme par exemple l'éléphant qu'elle avait peint pour le zoo.
Le Mali, l'éléphant Mali.
Le Mali, c'est moi qui l'ai convaincu à faire le Mali. Elle ne voulait pas, parce que Mirkia, elle a horreur qu'on lui dise quoi faire. Elle a horreur qu'on lui donne, un canvas. Comment on dit ça en français, un canevas?
Un canevas, oui.
Donc elle a horreur, elle veut apporter son propre canevas. Et quand je lui ai demandé si ça intéressait de faire un éléphant, elle m'a dit non, parce qu'elle a dit moi je. Et puis finalement, là, j'ai dit, mais c'est un truc, ça fait partie d'une série, etc. Et donc elle a dit, amenez-moi l'éléphant et puis je vais voir quand je le recevrai. Donc il y a cet éléphant qui est arrivé, là, c'est quand même un éléphant, c'est la taille d'un bébé éléphant. Donc c'est quand même...
C'était un beau morceau, hein, les Malis, c'était des beaux morceaux quand même.
Voilà. Et donc quand c'est arrivé, elle est tombée amoureuse et donc le zoo devait venir le récupérer, et tous les jours elle rajoutait des trucs. Elle voulait pas que Mali quitte son studio, et elle rajoutait des trucs. Elle lui rajoutait du rouge à lèvres, elle lui a mis elle lui a mis du vernis à ongles, etc. Mais elle continue à rajouter des choses. Puis un jour, on a quand même dû lui dire qu'il faut qu'il parte, parce que le Mali, il avait du travail. Donc le Mali a d'ailleurs été restauré pour l'exposition au Jewish Museum qui a lieu qui a lieu jusqu'en décembre. Donc,
ouais, tout à fait, on a le temps. Et vous, vous faites des tours, je crois, pour mieux comprendre et mieux connaître Mirka au sein de Saint-Kilda. Parce que c'est important, Saint-Kilda, pour elle.
Voilà, Mirka a vécu à Saint-Kilda pratiquement toute sa vie, disons à Melbourne, donc pas, sauf la fin de sa vie où elle était à Richmond et avant, elle était au 9 Collins Street. Mais donc au départ, c'est le Jewish Museum qui m'a demandé de mener un tour dans le cadre du musée. Donc c'est des tours, moi c'est pas mes tours, c'est des tours réalisés par le musée. Et donc j'ai fait un tour en anglais qui a eu beaucoup de succès. Les gens ont trouvé ça intéressant. Ça a duré d'ailleurs 2h30. Ça devait durer 1h, ça a duré 2h30. Et quelqu'un a suggéré que je fasse le tour en français. Et donc je vais faire un premier tour le 9 mai, donc je sais que c'est la fête des mères, mais il fallait qu'on trouve le tour commence au musée, donc il fallait qu'on trouve, comme c'est un tour privé, il fallait qu'on trouve un espace où il n'y avait aucune réservation. Et donc le 9 à 10h30, je ne sais pas, le 9 mai, il reste quelques places, hein, mais il ne reste pas beaucoup. Et donc on commence au musée et ensuite on va faire un tour en Saint-Kilda et on va revoir tous les endroits où Mirka a laissé sa trace.
Ouais. Ouais, c'est très, très intéressant. Donc tout ça, on peut réserver via le Jewish Museum, c'est ça?
Absolument, oui. Donc moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est parler de Mirka, c'est quelque chose. Pour moi, elle a beaucoup compté, mais je sais qu'elle a compté pour beaucoup de monde et même le fait d'apporter et de la faire revivre par un tour comme ça, moi je trouve que c'est très important pour qu'on la garde en mémoire aussi longtemps que possible et que non seulement par ses œuvres, mais également par des histoires. Et je sais que quand j'avais fait mon tour en février ou en mars, y a pas mal de gens qui étaient là et qui avaient leur propre histoire sur Mirka, qu'ils avaient rencontré un jour ou un autre. Et finalement, c'était un tour qui était intéressant. Et même pour moi, j'ai appris des choses sur elle que je ne connaissais pas.
Ouais, c'est très important de la garder très rayonnante. Merci Serge d'avoir pris un peu de temps pour nous aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS.
Pas de problème. Et si ça se passe bien, je referai un autre en cours de peut-être au mois de septembre ou au mois d'octobre. S'il y a une demande, Mirka est une femme qui compte beaucoup pour moi et pour la communauté française et je continuerai à la faire vivre aussi longtemps que je peux. Merci Christophe. Au revoir.
Radio SBS. Les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation sbs.com.au/french.
C'était Sana Manot et cette chanson Petit Pays qui fait encore une fois partie de notre sélection musicale pour le mois de mai. On arrive à la fin de cette émission en français sur Radio SBS. Retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Durcissement de la politique des voyages en Australie, notamment pour les gens qui souhaitent revenir d'Inde avec une amende énorme si jamais la loi n'est pas respectée. La situation en Inde d'ailleurs qui est de plus en plus inquiétante. De certains pays ont totalement interdit les voyages à partir de l'Inde comme la France. Voilà, on arrive à la fin de ce programme, comme je vous le disais en français. Prochain rendez-vous avec l'émission en français, c'est demain à 13h avec Grégory. Et puis dans la semaine, mardi et jeudi également à 13h. Rendez-vous sur notre site internet sbs.com.au/french et sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter où nous sommes @sbsfrench. Je vous laisse en compagnie de Mathieu Bogart et cette chanson Annie qui fait partie de notre sélection musicale. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.